Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec l'invité au bout de l'actu ce soir, Frédéric Boccaletti, qui est président du groupe Rassemblement National, ex-Front National, on le précise encore aujourd'hui, au sein du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité ce soir. Alors Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon le choix tour à tour de Christian Estrosi et aujourd'hui de Renaud Muselier, qui souhaite mettre fin à l'acronyme PACA à travers une nouvelle marque qui, rappelons-le, n'est pas un changement de nom officiel de la région. On n'en fait pas un peu beaucoup autour de ce changement qui pourrait de nouveau être abandonné, d'ailleurs lors d'un changement de majorité, Frédéric Boccaletti?
Oui, en effet, on en fait beaucoup, mais c'est de la communication comme nous ont habitué M. Estrosi et M. Muselier. Il faut rappeler un petit peu comment ça s'est passé. C'est que il y a quelques mois, on a présenté en plénière une délibération pour simplement déposer une marque. Le soir même, M. Muselier annonçait le changement de nom de la région sur un visuel. Grâce à une levée de bouclier, il a fait marche arrière. Mais là, il revient en force, évidemment, pour imposer ce nom-là, qui n'a d'ailleurs aucune signification pour notre région. Alors c'est vrai que l'acronyme PACA n'est pas très joli, bien évidemment, mais encore charge à nous et à vous les médias de ne plus l'utiliser, d'appeler notre région comme elle s'appelle réellement, la Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Selon vous, quel est le problème de cet acronyme PACA qui pour autant est parfaitement connu au sein du patrimoine français ? On sait qu'on parle du Sud.
Bien sûr, mais je crois qu'honnêtement, c'est électoraliste, bien évidemment, tout cela. Monsieur Vouzel, je le rappelle, sous la présidente mandature, avait aussi essayé de changer de nom, et il y avait une levée de bouclier des élus et de la population. Alors nous, on n'est pas obtus. Alors nous, on préférait garder l'acronyme Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. Mais par contre, nous, ce qu'on propose à M. Muselier, parce que en réalité, c'est quoi? C'est que il dit que la région ne change pas de nom, mais c'est faux. Si vous allez aujourd'hui sur le site de la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, même l'adresse IP, c'est plus région PACA.
Alors effectivement, le nom a changé, mais pour que ce soit vraiment validé en changement de nom, il faudrait encore qu'il y ait un vote au sein de la collectivité. Ça, c'est pas prévu encore aujourd'hui.
Monsieur Muselier ne le fera jamais pour une bonne raison, c'est qu'une partie des élus de la majorité sont contre aussi. Et nous, on va même plus loin. Au-delà des élus, bien évidemment, qui doivent être interrogés, mais on doit aussi interroger les élus locaux, les maires, les conseils départementaux, mais aussi la population.
Oui, vous proposez,
c'est trop important.
Vous proposez un changement de nom à travers une consultation populaire de votre côté au sein du Rassemblement national. Si changement il y avait, vous avez déjà une idée alternative pour un nouveau nom?
Non, moi je pense qu'honnêtement, le terme Provence-Alpes-Côte d'Azur est très bien. Il faut demander à la population, est-ce qu'elle souhaite changer de nom ou pas? Est-ce que la région doit changer de nom ou pas? C'est un minimum de démocratie. Alors, ces élus-là ont souvent le terme de démocratie à la bouche. Malheureusement, ils se comportent pas comme tels. On voit, c'est en permanence un forcing pour pouvoir nous imposer tout cela. Ça va jusqu'à... certains diront que c'est un détail. Mais on est actuellement en train de nous changer nos boîtes mail. Actuellement, j'avais ma boîte mail, Frédéric Boccaletti, @regionpaca.fr. Eh bien, on est en train de me la changer pour Sud. Eh bien non, je refuse. Parce que le lien entre la population et les élus, ça passe bien évidemment, on le sait, par le téléphone, par le courrier, par le mail. Et si on arrive même à changer nos boîtes mail, bien évidemment, dans la tête des gens, ça va être acté. C'est comme pour le site internet qui aujourd'hui a une bannière, Région Sud. Tous les visuels faits par la région, c'est Région Sud. Et d'ailleurs, nous nous posons actuellement très clairement la question d'attaquer tout cela au tribunal administratif, parce que même si Monsieur Muselier dit que la région ne change pas de nom, tout est fait pour démontrer que oui, notamment les délibérations. Délibérations portent déjà le terme de région Sud Provence Alpes-Côte d'Azur.
Ce que vous craignez à long terme, c'est que ça s'installe insidieusement et que finalement, reste.
C'est exactement ce qu'est en train de faire Monsieur Muselier. Alors il dit que le terme Provence Alpes-Côte d'Azur PACA n'est pas joli, mais aujourd'hui maintenant, grâce à lui, on est la région SPACA, Sud Provence Alpes-Côte d'Azur. Bon, honnêtement, faut être sérieux à un moment donné. Et s'il veut un débat là-dessus, cela doit se faire dans l'hémicycle, avec les élus locaux et avec la population. On ne change pas de nom d'une région comme ça. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les autres régions. Honnêtement, franchement, les Hauts-de-France, le Grand Est, etc. Ces noms-là ne ressemblent à rien. Nous avions, nous, une chance de porter un nom qui représentait l'ensemble de nos territoires. Le territoire de la région est très diversifié. Vous avez les Alpes avec la montagne, vous avez le Vaucluse, vous avez la Provence, vous avez la Côte d'Azur. C'est extrêmement diversifié. Bon, honnêtement, alors, M. Muselier dit, lui, oui, le Sud, c'est le soleil, les plages et la chaleur. Quand on est au mois de février et qu'on habite dans les Alpes, le terme de sud, ça me paraît un petit peu totalement déplacé. Et je pense pas que spécifiquement les gens se disent voilà. Et le sud de quoi?
Selon vous, sud ne représente pas la totalité des territoires
non,
de la région.
Tout à fait. Et notamment les Alpes, le Vaucluse, notamment ces trois départements-là qui ne sont pas du tout en bord de mer. Et même si honnêtement, même par rapport au département du Var, moi j'habite sur la côte. Eh bien, je pense que les gens du Haut-Var ne se considèrent pas non plus. Ils se considèrent plutôt en Provence.
Alors Frédéric Boccanetti, voilà. Si le changement de nom est un coup de com', comment doit-on aborder le changement de nom du Front National en Rassemblement National ?
Ah ben, la seule différence, c'est que nous, il y a eu un vote. La seule différence, c'est que nous, il y a eu un vote, et le vote a été, le changement de nom a été validé par plus de 80% de nos adhérents. Ce qui est totalement différent. C'est-à-dire que, bien évidemment, en politique, on sait, avec ce qui s'est passé notamment après l'élection de Monsieur Macron, il y a eu une évolution, une redistribution de la carte politique électorale. Il fallait que nous, on puisse aussi évoluer, parce que je rappelle quand même que notre nom, nos statuts, dataient des années 70 quand même.
Oui, 1972.
Il
n'y
avait jamais une modification. Voilà, oui. 72 exactement. Donc il fallait évidemment qu'on se modernise dans le fonctionnement, parce que le changement de nom, c'est bien. Ce que fait changement de nom, ça peut être bien, mais si une modification, que ce soit pour une région ou pour un mouvement politique, ça s'arrête simplement à un changement de nom, mais qu'en profondeur il n'y a pas de modification dans le fonctionnement, dans les instances, etc., ça ne sert strictement à rien. C'est que de la com, et c'est pas du tout le cas du Front National, puisqu'on a revu en même temps le fonctionnement du mouvement au niveau national, mais aussi dans nos fédérations, avec plus de pouvoir pour les fédérations.
Justement, Nicolas Lebourg, qui est spécialiste de l'extrême droite, dit, lui, ce changement de nom du Front National, eh bien on est loin d'une révolution doctrinale. Pourquoi il a tort, selon vous?
Mais moi, je pense qu'il a tort tout simplement parce que c'est peut-être un monsieur qui a une idéologie politique. D'ailleurs, il se revendique souvent d'être un spécialiste de l'extrême droite. Bon, moi, je me considère pas comme d'extrême droite. Donc déjà, avec le fait qu'il se considère que lui comme un journaliste qui travaille sur l'extrême droite, c'est assez péjoratif. Non, moi, je crois qu'il se trompe totalement parce que, justement, il n'y a pas que le changement de nom. On a revu l'intégralité de nos instances.
Mais alors, justement, quelle est l'idéologie qui change ou qui changera demain avec ce changement de nom?
Alors, attention, sur l'idéologie, Marine Le Pen a été très claire. Les fondamentaux du Front National resteront les fondamentaux du Rassemblement National. Bien évidemment. Après, il y a une évolution, et je pense que vous l'avez constaté, c'est notamment par rapport à l'Europe, et notamment sur un sujet qui a été extrêmement sensible pendant la campagne présidentielle, c'est notamment la sortie de l'euro, qui a été mal perçue par nos compatriotes, et nous l'avons entendu. Parce que bien évidemment, c'est bien beau d'avancer des idées et de les défendre, mais si à un moment donné la population ne comprend pas, parce que il y a eu une caricature de nos idées faite par un certain nombre de médias, il y a eu très certainement aussi de notre part un manque de communication, bien évidemment aussi.
C'était nécessaire de se détacher de l'image de Jean-Marie Le Pen, parce qu'on précise aujourd'hui que le poste du président d'honneur du Front National a complètement disparu, un poste qui était occupé par Jean-Marie Le Pen. C'était vital pour le parti.
Je rappelle que le poste de président d'honneur avait déjà disparu lors du dernier congrès.
Mais c'était nécessaire que ces statuts, justement, l'officialisent, cette disparition.
Mais les statuts n'ont pas été votés récemment à Lyon. Ils ont été votés précédemment.
En février dernier.
Évidemment, voilà, bien évidemment qu'il fallait à un moment donné clarifier la situation, parce que vous savez très bien le respect ou l'affection que j'ai pour Jean-Marie Le Pen. J'étais son directeur de campagne, son secrétaire général pendant un certain nombre d'années, mais Jean-Marie Le Pen, malheureusement, n'a pas souhaité suivre les directives de la présidente. Et moi, il y a une chose que m'a expliqué et m'a appris Jean-Marie Le Pen, c'est qu'on doit être loyal au chef, et le chef aujourd'hui, c'est Marine Le Pen.
Ce qui veut dire que
quand Marine Le Pen l'a mis à plusieurs reprises en garde concernant les propos qu'il pouvait tenir et qu'il a continué, eh bien à un moment donné, quand on a un chef, on doit prendre des décisions et prendre des sanctions. Et je peux vous garantir que, connaissant bien Marine Le Pen, je peux vous garantir que ça a été extrêmement difficile pour elle de prendre ce genre de décision, d'exclure son propre père.
Ce qui veut dire qu'en
partie qu'il avait fondé.
Ouais.
Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. C'est quand on fait de la politique, on doit mettre de côté ses convictions personnelles pour à un moment donné trancher dans l'intérêt du mouvement et des idées qu'on représente.
Ce qui veut dire aussi, à travers votre changement, et on l'a entendu, qu'il y a un souhait de la part du Rassemblement National de rassembler plus largement. On a entendu cet appel à Debout la France. Est-ce qu'on pourrait entendre d'autres appels, par exemple pour les élections municipales qui auront lieu en 2020? Est-ce que dans des territoires comme les nôtres, par exemple, que ce soit les Hautes-Alpes Hautes-Alpes ou les Alpes d'Haute-Provence où le Front National est assez peu ancré, les secrétaires départementales pourraient appeler à soutenir certains candidats qui ne seraient pas issus du Rassemblement National.
Bien sûr, moi je peux vous le dire, dans le département du Var, dont j'ai la responsabilité, ça avait déjà fait lors des précédentes élections, et ça sera fait sur le Var, mais aussi sur l'ensemble des départements. Quand on a un maire, ou un candidat, ou un maire sortant, qui défend une grande partie de nos convictions, et sur avec qui on peut travailler sur un programme commun, quelle que soit son étiquette, d'origine, bien évidemment qu'on peut appeler à le soutenir, et pourquoi pas faire des listes communes, à travailler ensemble, tout comme dans les villes où nous montrons des listes, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, bien évidemment qu'ils sont le bienvenu. Alors attention, il y aura une plateforme de travail sur un projet communal, et du moment où ils sont d'accord pour défendre ces idées-là et ce projet,
ils devront s'engager.
Aucun inconvénient à tout cela.
Ils devront s'engager. Vous êtes prêts à les soutenir, mais en contrepartie, ils devront s'engager à un programme commun issu du Rassemblement National.
Non, issu d'un travail local fait entre les candidats et entre les élus.
Bien. Frédéric Bocalletti.
Pas imposé par une direction à Paris qui dira, dans votre commune, ça doit être ça. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est que la différence qu'il y a aujourd'hui entre les mairies que dirige le Front National et ce qui a pu se passer en 95, c'est notamment que les maires, aujourd'hui, ne reçoivent aucune consigne de la direction du mouvement. Un maire et sa majorité gèrent pleinement et entièrement leur commune comme ils le souhaitent. Il n'y a aucune ingérence ni des secrétaires départementaux. Et moi, dans mon département, il y a 3 villes FN. Je ne suis jamais intervenu sur une décision municipale. Jamais.
Bien. On en reparlera, évidemment, d'ici là. Frédéric Bocalletti, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes président du groupe Rassemblement National. On le précise encore, ex-Front National, au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant.
Au bout de l'actu. Alpes 1. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec l'invité d'Au bout de l'actu ce soir, Frédéric Bocalletti, président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Frédéric Bocalletti, vu des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, l'opposition au sein du Conseil Régional semble assez peu force de proposition et encore moins un atout dans la défense de nos territoires. Je m'explique, sachant que la conseillère régionale des Alpes de Haute-Provence, Janine Douzon, a quitté le navire pour rejoindre Florian Philippot, et le conseiller régional des Hautes-Alpes, Maureen Navarane, qui a depuis son élection rejoint son fief du Var. Bref, quelles sont les orientations de votre groupe globalement à la région ?
Alors, déjà, je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on a moins de visibilité depuis un an maintenant que j'ai été élu à la tête du groupe, tout simplement parce que jusqu'à il y a un an, c'était Marion Maréchal Le Pen qui était présidente du groupe. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous à essayer d'avoir autant de visibilité que pouvait l'avoir Marion. Mmh. Mais on y travaille, et la preuve, c'est que vous m'avez invité. Donc, voilà, on y travaille et on va essayer d'être de plus en plus présent, et notamment dans les départements alpins, parce que c'est extrêmement important de montrer aux habitants de ces deux territoires, qu'effectivement, ils ne sont pas oubliés, parce que les réalités, c'est qu'ils sont oubliés par l'exécutif. Je m'explique. C'est que on a fait un petit pointage, notamment sur les CRET. C'est les contrats régionaux d'équilibre territorial. Mmh. 114 millions d'euros à peu près de financement qui sont donnés aux collectivités dans le cadre de financement, de travaux, etc. Faut savoir, c'est que actuellement, on a le 04, qui perçoit de la région PACA, alors je parle en moyenne par nombre d'habitants, 29 euros. Le 05, 31 euros. Vous avez le 84, le Vaucluse, 14 euros par habitant. Le 06, dans le département de Monsieur Estrosi, près de 70 euros par habitant. Le 83, le Var, moins de 14 euros. Et le 13, qui est les Bouches-du-Rhône, qui était à 3,1 euros par habitant. Mais vous le savez, Monsieur Estrosi a démissionné. Et c'est Monsieur Muselier qui est devenu président de la région. Eh bien, comme par hasard, depuis quelques mois, Monsieur Muselier a conventionné avec la métropole de Marseille 120 millions d'euros. Ce qui fait bien évidemment augmenter la moyenne des Bouches-du-Rhône à 63 euros. C'est-à-dire qu'au final, vous avez deux gros départements qui prennent pratiquement l'intégralité de l'enveloppe des crêtes. C'est les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Alors moi, j'ai rien contre ces deux départements, bien évidemment.
Vous êtes en train de dénoncer un copinage politique, là?
Bien sûr, mais bien sûr, c'est du clientélisme. Aujourd'hui, dans les deux départements alpins, la moyenne par habitant est de 30 euros. Pourquoi dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes à plus du double? Qu'on m'explique. Qu'on m'explique.
Il y a bien évidemment un clientélisme, c'est-à-dire que... Tout simplement parce que les problématiques sont différentes.
Ah ben moi, je peux vous garantir que dans vos deux départements, il y a de grosses problématiques, notamment pour notre jeunesse, notamment pour les transports, pour tout ça, mais tout simplement parce que quand Monsieur Estrosi était à la tête de la région, eh bien, il a déversé je ne sais combien pour les Alpes-Maritimes, et maintenant c'est Monsieur Muselier, on sait très bien les vues qu'il a sur Marseille et sur la métropole de Marseille, et bien évidemment, maintenant on rééquilibre. Le problème, c'est qu'on ne rééquilibre que sur deux départements. Moi, je rappelle à ces élus, c'est que notre région, c'est pas deux départements. C'est six départements. Et au final, vous avez, les deux départements alpins, le Vaucluse et le Var, qui sont, les bêtes noires de la région. C'est les grands perdants du financement de la région. Et bien, là, nous, notre travail, c'est ça aussi en région. C'est que régulièrement, on monte au créneau pour essayer d'obtenir une équité territoriale. Une équité territoriale. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien contre les habitants des Alpes-Maritimes ou des Bouches-du-Rhône. Nous demandons qu'il y ait une équité territoriale entre les départements alpins, le Vaucluse, le Var, et les deux autres départements qui, évidemment, engouffrent une grande majorité. Mais on a fait un certain nombre de propositions à la région. Je vous le rappelle, c'est que on a déposé une motion pour en soutien à nos pompiers, rejetée par la majorité. On est à plusieurs reprises aussi intervenu pour proposer la préférence régionale, notamment dans un certain nombre de domaines financiers pour les entreprises, rejetés par la majorité. À plusieurs reprises, on est aussi intervenu pour dénoncer des subventions. Rien que sur l'année dernière, c'est 80 000 euros de subventions annulées pour des associations pro-immigrants, pro-immigration.
Pourtant,
80 000 euros sur simplement une année.
Pour autant, vous avez pointé en problématique dans les Alpes du Sud et notamment dans les Hautes-Alpes l'enclavement ferroviaire. On a peu entendu le Front National ou Rassemblement National concernant ce sujet quand la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de remplacer certains trains par des bus avant que la décision ne soit revue par la suite, puisqu'on rappelle que le nouveau service ferroviaire prendra effet en décembre prochain, qu'il y aura un peu plus de bus et des trains qui arriveront pendant les heures de pointe.
Eh bien, il faut regarder les assemblées. À plusieurs reprises, nous sommes intervenus aussi sur ce sujet-là. Nous sommes totalement opposés à ce qu'est en train de mettre en place Monsieur Muselier. Les gares doivent être conservées, notamment dans les départements alpins.
Aucune gare ne va fermer. C'est la réponse de René Muselier. Aucune gare ne fermera.
Je
c'est un engagement.
Je n'ai aucune confiance aux paroles de l'exécutif. Aucune confiance.
Pour autant,
je vous le dis très clairement, on va avec la privatisation, avec le fait que de l'ouverture à la concurrence, etc.
Il n'y a pas de privatisation qui est officiellement avancée, Frédéric Bocquet.
Pas officiellement.
Et ça, vous n'y croyez pas. Ça, vous n'y croyez pas non plus.
Non, je n'y crois aucunement. Ce qui est sûr, c'est que la région ouvre à la concurrence pour les transports. Qu'est-ce qui va se passer? Les sociétés qui vont venir pour essayer d'emporter des marchés, elles vont prendre les lignes les plus rentables. Eh bien, les deux grands perdants, ce seront notamment les départements alpins, parce que ce sont des lignes qui ne sont pas rentables. Alors oui, on sait qu'elles coûtent à la collectivité. Eh bien, nous pensons qu'il faut faire cet effort-là. Parce que si demain, des gares ferment, parce que on nous explique aujourd'hui, aucune gare fermera. On nous l'a expliqué à l'époque, sous Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, combien de gares ont fermé? Des dizaines et des dizaines dans l'ensemble de la France, et notamment dans les communes rurales.
Et pour autant, quand la région, et notamment Philippe Tabarot, vice-président en charge des transports, dit « mais c'est polluant et ça coûte plus cher de faire circuler des trains vides que des bus ».
Mais les bus, quand un bus va partir de Briançon et qu'il veut venir à Marseille ou à Toulon, en hiver, il va mettre combien de temps?
Mais il consommera
avec
moins.
La neige,
mais fatalement, il consommera moins. Ça paraît...
Mais il coûtera moins aussi.
Mais non, je veux bien, mais est-ce que vous pensez que des gens vont prendre le bus pour mettre 7 heures ou 8 heures pour venir jusqu'à Marseille?
Mais alors c'est quoi l'alternative? Plus de trains, comme le propose, certains élus?
Déjà maintenir l'existant est déjà très bien, et après évidemment au cas par cas, on va pas rajouter des trains si l'existant est suffisant, bien évidemment. Mais on nous parle de dépenses, je vous rappelle quand même que sur les transports, ils ont quand même dépensé 5,4 millions d'euros pour un joujou de Monsieur Estrosi, je parle des portiques, qui maintenant sont arrêtés par Monsieur Muselier, chose que nous avions dénoncée depuis le début. Eh bien moi, ces 5,4 millions d'euros, eh bien j'aurais préféré qu'on les mette de côté, pour justement penser aux départements alpins qui, eux, sont en grande difficulté. Parce qu'on nous parle toujours d'économie, sauf quand c'est pour leur promotion. C'est pareil, on revient sur le nom de la région. Quand il y a eu cette délibération sur le dépôt de la marque, on a demandé combien ça allait coûter. On nous a dit, quelques centaines d'euros. Vous plaisantez, quand on voit aujourd'hui tout ce qui est en train d'être mis en place, les visuels, tous les documents, sites internet, etc., ça n'aura pas coûté que quelques centaines d'euros. C'est-à-dire que quand ils ont, quand les élus de la majorité ont un bénéfice politique à tirer, ils ne regardent pas la dépense. Mmh. Et ça, c'est ça, moi, je trouve que c'est scandaleux. On doit penser à l'intérêt général et non pas à la prochaine élection, et notamment municipale, à Marseille ou à Nice.
Soutenez-vous la décision qui a été prise par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est celle-ci, c'est-à-dire de diminuer jusqu'à la suppression les subventions aux chantiers d'insertion. On sait que, par exemple, dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes-de-Provence, ce sont plusieurs structures et qui sont actuellement menacées parce que ce budget qui vient directement du conseil régional, eh bien, il est extrêmement important pour la survie.
Encore une fois, moi je pense que qu'on fasse des économies, bien sûr, mais je pense que c'est pas la priorité de les faire là.
Où est-ce qu'il faut les faire
ces deux départements.
Où est-ce qu'il faut les faire, les économies, alors?
Notamment dans le train de vie, d'exécutif.
On se rend compte, d'après un dernier rapport qui date de 2016, que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est celle qui a été la plus vertueuse en termes d'économie dans toutes les régions de France. Il y a quand même des efforts qui ont été faits, ça non plus, vous ne le constatez pas?
Oui, mais bien sûr, des efforts ont été faits. Mais je reviens sur une des dépenses, et je pourrais vous en donner bien d'autres. Les portiques, c'est 1,4 millions d'euros. 5,4 millions d'euros. Je pense qu'honnêtement, c'est pas quelques centaines d'euros. C'est plus de 5 millions d'euros qui ont été dépensés. Et dans plusieurs domaines, on se rend compte qu'il y a des dépenses qui sont faites, pas incontrôlées parce qu'ils savent très bien où ils vont, mais qui ne servent qu'à la communication. Tout l'argent qu'on est actuellement en train de distribuer pour un pseudo changement de nom, qui apparemment n'en est pas un, mais qui en est quand même un. Cet argent-là, honnêtement, il peut pas être utilisé à autre chose. Le budget communication, il peut pas être diminué. Honnêtement, il y a d'autres économies à faire, mais il y a aussi une réalité, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours taper sur les mêmes. C'est-à-dire, parce que toutes ces décisions-là, dont celles que vous venez de parler, touchent surtout les petits départements qui ont peu de moyens. Oui, donc on veut faire quoi? On veut que ces deux départements disparaissent?
Quel serait le, pour vous, vous seriez à la tête de la région aujourd'hui, quelle serait l'urgence selon vous à traiter?
Ah, l'urgence, bien évidemment, c'est il y a l'apprentissage, mais c'est surtout maintenant une décision nationale. Il y a l'apprentissage parce que les chiffres qu'on nous avait annoncés au début, on en est bien loin, même si par rapport à Vauzelles, des efforts ont été faits, mais là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a au niveau des aides aux entreprises, où nous, on souhaiterait que notamment elles viennent en aide aux entreprises de la région, car
c'est le cas.
Nous mettons en avant.
C'est le cas déjà.
Pas toujours. Je vous donnerai un exemple. Hier, les agriculteurs ont bloqué quelques heures le site de la raffinerie Total de la MED dans les Bouches-du-Rhône, notamment pour protester contre l'importation
d'huile de palme.
De l'étranger, d'huile de palme. De l'étranger, pour faire du biocarburant. La région est partie prenante dans la conservation de ce site. On aurait pu imaginer que la région conditionne l'argent qu'elle verse pour la reconversion de ce site vers la production de biocarburant à une obligation d'utiliser la production des agricultures françaises, notamment le colza. Eh bien non, ça n'a pas été fait. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on tienne tous les discours, voilà, tous les discours possibles. À un moment donné, il y a les faits. Là, aucune condition n'a été mise.
Merci Frédéric Boccaletti d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle, président du groupe de Rassemblement National au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à très bientôt sur Alpe 1. Dans un instant, la suite 19h, ce sera la première édition du récap de l'info. À tout de suite sur Alpe 1.